Ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être faire tenir quelques propos introductifs d'entrée de jeu. Je vais laisser la parole ensuite à Ève, Pierre-Gabriel, et c'est Johan qui terminera avec des propos, semble-t-il, amusants, plutôt qu'introductifs. moi, ce que j'ai voulu faire, c'est peut-être essayer d'identifier 5 types de manifestations de l'oubli en littérature. J'aurai donc 5 catégories, vous avez compris. La première catégorie, c'est l'oubli comme thème, comme enjeu narratif et énonciatif. Dans le cadre de mes réflexions sur les fictions de la mémoire et de l'oubli, qui est quand même un chantier que je mène depuis le début, depuis 2010-2011, j'ai élaboré une véritable typologie des fictions tournant autour de l'oubli. Alors, j'ai des fictions, des figures de l'oubli. Alors, et chacune de mes catégories recouvre un ensemble d'œuvres en moyenne de 5 à 10 œuvres. Il y a des fictions des figures de l'oubli, des fictions du labyrinthe, des fictions de l'amnésie, des fictions de la table rase, hein, le tabula rasa, on efface tout et on recommence. Des fictions du coma, où il est possible de raconter une histoire qui se déroule dans le coma. On ne sait pas exactement pourquoi, mais bon, ça se fait. Il y a des fictions de l'après-coup. Alors, c'est une version radicale du coma, c'est-à-dire c'est la vie après la mort. Un peu comme une version du coma. Il y a des fictions de la dissolution. On commence avec un sujet, ça se termine avec plus rien. Et puis, à l'envers, il y a des fictions de la mémoire saturée. Et donc, il y a véritablement un véritable corpus autour de la mémoire, ce qui va bien quand même pour des textes littéraires, parce que le récit, c'est l'art de rendre l'absent présent. Et les fictions de l'oubli, c'est comment ramener à l'absence ce qui est déjà absent. Et donc, en transitant, bien sûr, par le texte qui rend momentanément présent les subjectivités ou consciences. Alors, donc voilà l'oubli comme thème, comme enjeu narratif ou énonciatif. Il y a aussi l'oubli comme structure narrative, comme structure discursive. Évidemment, les questions de fragmentation, la logique de discontinuité qu'on voit très souvent, les récits délinéarisés fonctionnent sur une logique de l'oubli plutôt que de la structuration et d'une mémoire bien constituée. Il y a bien sûr aussi des fictions labyrinthiques qui vont forcer le lecteur et la lectrice à se perdre dans les raies d'une fiction complexe. On peut penser à La Maison des Feuilles de Danielewski, roman de 2000, ou encore Perdu dans le labyrinthe de John Barth, qui est pour moi l'un des textes fondateurs de mon intérêt pour les fictions d'oubli. On peut aussi imaginer les hypertextes de fiction qui ont commencé dès la fin, dès 90, 92, mais surtout en 94, donc avec, disons, Afternoon, a Story de Michael Joyce. C'était la première fois qu'un dispositif comme HyperCard, là c'était StorySpace, mais c'était fondé sur HyperCard, hein, sur l'idée de textes liés par, réunis par des liens, et bien qu'on utilisait cette structure-là pour raconter quelque chose, donc évidemment on se perdait. L'idée était bien sûr de se perdre dans ces fictions. D'ailleurs, pour Afternoon, a Story, l'explication de l'hyperfiction, c'était ben, vous commencez là où vous voulez, mais vous arrêtez quand vous avez décidé de vous arrêter, parce qu'il n'y a pas nécessairement de fin à l'hyperfiction. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, donc l'oubli comme structure narrative et discursive. La troisième, c'est l'oubli comme logique culturelle. On peut bien sûr penser à la censure. Hein, pensez au Québec, on a longtemps eu cette idée d'un index, donc des livres qui étaient mis à l'index et donc par conséquent oubliés par la culture officielle. On peut aussi penser d'une façon encore plus violente aux autodafés, donc aux destructions de livres et de bibliothèques. Je peux renvoyer à l'essai de Fernando Baez, Histoire universelle de la destruction des livres, où, et je vais le citer rapidement, où il dit que le livre, quand il est détruit, n'est pas détruit en tant qu'objet physique, mais en tant que lien mémoriel, c'est-à-dire comme l'un des axes de l'identité d'un homme ou d'une communauté. Il n'y a pas d'identité sans mémoire, donc évidemment l'oubli implique une dissolution de l'identité. Si on ne se souvient pas de ce qu'on est, on ne sait pas qui on est. Au cours des siècles, nous avons vu que lorsqu'un groupe ou une nation tente de soumettre un autre groupe ou une autre nation, la première chose qu'il fait est d'essayer d'effacer des traces de sa mémoire pour reconfigurer son identité. Donc, on efface les livres, on brûle les bibliothèques, on fait de beaux foyers, comme on a vu notamment au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est l'oubli comme logique culturelle. On efface là, culturellement la présence des livres. La quatrième catégorie, c'est l'oubli comme conséquence du passage du temps. On l'oublie simplement comme effet historique. Quel pourcentage de livres est retenu après 50 ans, après 100 ans? Pensons juste à Conan Doyle, par exemple, les aventures de Sherlock Holmes, écrites à la fin du 19e, début du 20e. C'est les seuls romans policiers de la fin du 19e qu'on lit fréquemment maintenant. Les autres sont complètement oubliés. Pourtant, il y avait une production extraordinairement importante, mais qui a été simplement complètement oubliée. Maintenant, on ne retient que Doyle. Donc, Sherlock Holmes. Bon, voilà, en fait, un effet, donc l'oubli comme conséquence du passage du temps. Le troisième, pas le troisième, au contraire, c'est un autre impair, là, mais l'oubli, ma cinquième catégorie, c'est l'oubli comme modèle économique de l'édition littéraire. Alors, s'il y a un tabou qu'on connaît en littérature, c'est bien celle du pilon, du pilonnage de livres. J'ai le goût de vous dire que le pilon est la ligne brisée de la chaîne du livre. C'est par ça qu'on coupe la chaîne. L'inscription en creux d'une défaillance, celle de ne pouvoir répondre strictement à une logique du marché. Alors, on évalue à peu près autour de 25 ou 40% de la production de livres qui passent au pilon chaque année. Alors, ça finit par être totalement des chiffres incroyables. Disons au Québec, là, plus, en disant 500, c'est juste faire un chiffron parce qu'on publie plus que 500 livres par année, mais prenons le 500. Chaque livre publié à 1000 exemplaires. On a donc une production de 500 000 bouquins. À la fin de l'année, 200 000 de ces 500 000 bouquins seront passés au pilon. On ne verra jamais un lecteur ou un lecteur ne les verra jamais. Et donc, le pilon devient cet espace incroyable où la littérature, littéralement, s'oublie, s'enfonce dans un abîme sans fin, ou dans ce que c'est en fait une machine qui consiste à découper, à déchiqueter le papier. Évidemment, le papier devient une pâte qui elle-même permettra de refaire des livres, refaire d'autres produits de papier. Et comme ça, le cycle peut fonctionner tout seul d'un livre qui n'est jamais lu, qui est pilonné, qui est retransformé en papier, qui redevient un livre qui n'est jamais lu. Bon, vous voyez comment l'oubli devient une spirale tout à fait, centrifuge en ce cas-ci, mais centripète, c'est-à-dire c'est en allant vers le cœur même, en fait, d'une pratique. Alors voilà les cinq catégories avec lesquelles j'avais le goût d'ouvrir cette petite table ronde sur la présence de l'oubli ou l'oubli au cœur même des pratiques littéraires. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Ève.
Dans un autre ordre d'idées, moi, en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ma piste de réflexion qui est à la base de mon mémoire qui porte sur Joyce Mansour, donc une figure oubliée du surréalisme. Donc, vous allez voir, c'est très court, c'est très en surface, mais c'est peut-être mieux pour vous. Donc, le mouvement surréaliste a réussi à s'imposer dans les études littéraires par son esthétique avant-gardiste, ses jeux sur la forme et ses revendications sociales. Bien que ses membres se sont prononcés en faveur d'une émancipation de la femme et ont prôné sa place importante dans le domaine des arts, très peu de femmes surréalistes ont passé à l'histoire. Au cours des dernières années, entre autres grâce aux gender studies, certaines autrices comme Claude Cahun ont regagné leur légitimité. Mais Joyce Mansour est l'une de celles qui, malheureusement, n'a pas encore eu cette chance. Suivant la publication de son premier recueil de poésie, Cri, en 1953, elle quitte le Caire pour s'établir à Paris, où elle tisse rapidement des liens avec les membres du mouvement, principalement avec le père du surréalisme, André Breton. Donc, à la lecture de ses œuvres, il est difficile de nier son désir commun avec les surréalistes de démanteler les normes sociales et littéraires en place à son époque. En explorant les thèmes difficiles comme la violence, la mort et la sexualité, Joyce Mansour fait violence au discours traditionnel concernant les relations intimes, le rapport de pouvoir homme-femme et crée une esthétique littéraire transgressive, revendicatrice et singulière. Donc, bien qu'elle ait publié une quinzaine de recueils de poésie, quatre récits en prose et une pièce de théâtre entre 1953 et 1986, ses livres restent pour la plupart introuvables et n'ont toujours pas été numérisés. Il faut toutefois préciser qu'en 1991, grâce au travail de Pierre Alinsky et Hubert Nissen, les œuvres complètes de Mansour ont été réunies en un même livre chez Actes Sud et qu'elles ont été publiées à nouveau en 2014 dans une réédition enrichie par les éditions Michel Demeul. Bien que ces publications aient donné un second souffle à l'œuvre de la surréaliste, elles ont été imprimées à si peu d'exemplaires qu'elles se sont rapidement épuisées, replongeant ces textes dans l'ombre. D'ailleurs, si vous avez des pistes, si jamais vous les voyez sur eBay, écrivez-moi. Je les cherche. Donc, les éléments thématiques qui sont le plus explorés par Mansour sont l'érotisme, la violence, la mort, la laideur, la féminité, la religion, l'art et l'étranger. Ils sont tous amenés avec un humour noir mansourien qui crée un malaise chez le lecteur, chez l'actrice, en lui présentant des images absurdes qui s'opposent à celles préconçues et normatives qu'il habite. Donc, le procédé de digression est employé dans bon nombre de ses textes de manière à juxtaposer plusieurs scènes indépendantes entre elles et ainsi repousser le principe de cohésion littéraire. La singularité qu'engendre ce procédé lui vaut d'être qualifié de grotesque dans plusieurs critiques et études portant à son sujet. Donc, pour les surréalistes, les conventions littéraires traditionnelles ont un caractère risible et imposent des limitations à l'imaginaire. Donc, l'autrice met l'esthétique et la morale de côté pour mettre sur papier des histoires choquantes, crues et morbides. Dans toutes ses œuvres, sans exception, elle met en avant l'érotisme, la sexualité, la mort et la violence en les liant sous un grand thème de manière surprenante et inconfortable pour son lectorat. Bien que les surréalistes revendiquent une libération de l'érotisme et de la sexualité, ses membres masculins ont des idées et des conceptions traditionnelles, pour ne pas dire normatives, à l'égard de ces sujets. Donc, dans Surréalisme et sexualité, Xavier Gautier accorde un chapitre entier à la perversion et sans grande surprise, Joyce Mansour est l'artiste la plus citée. Donc, onanisme, zoophilie, nécrophilie, fétichisme, sadomasochisme, l'œuvre de l'écrivaine explore tout ce qui est considéré comme inadmissible. Tout comme je l'ai fait, Gautier a lu les retranscriptions du dossier Recherche sur la sexualité, apparaissant dans la revue La Révolution surréaliste, et reproche aux hommes de feindre leur revendication pour une libération sexuelle et une libération de la femme. Donc, très peu d'entre eux s'intéressent à la question de la sexualité dans leurs œuvres et tous mettent de l'avant une représentation stéréotypée de la femme et l'importance de l'amour et du couple hétérosexuel. Donc, du côté de Mansour, l'érotisme échappe littéralement aux adjectifs, aux définitions réductrices. Il se veut provoquant et provoque l'hésitation. Donc, ce rapport particulier, érotisme, sexualité, violence, mort, en fait réellement la reine du scandale et de la revendication dans le mouvement surréalisme. Donc, dans les femmes artistes dans les avant-gardes, Marie-Jo Barnet explique que la dynamique d'émancipation des femmes dès les années 20 coïncide avec une rupture des règles académiques qui aboutit paradoxalement à une marginalisation des femmes d'avant-garde ou plus exactement au renforcement du couple, hétérosexuel, puis du mariage comme vecteur d'intégration des femmes dans le milieu artistique. Donc, cela est particulièrement vrai au sein du mouvement surréaliste où la très grande majorité des femmes membres du surréalisme sont des conjointes, en fait, des membres masculins. Donc, le couple d'artistes devient une unité de production où l'homme se voit toujours placé au premier plan. Ainsi, on va parler de Man Ray et pas de Lee Miller, de Paul Éluard et pas de Nush Éluard, de Picasso et pas de Dora Maar, d'André Breton et pas d'Elisa Breton, pour ne mentionner que quelques-uns des couples ayant marqué le surréalisme. Donc malheureusement, les carrières se font toujours par le biais des hommes. Il est quasi impossible pour une femme qui n'est pas en union avec un artiste, qui est célibataire ou non hétérosexuel, d'être reconnue comme artiste. Donc si plusieurs membres importants du mouvement surréaliste ont tout de même acclamé l'œuvre de Joyce Mansour, ils n'ont toutefois rien fait pour lui rendre la reconnaissance qu'elle méritait. Donc, les femmes sont pour le mouvement une source d'inspiration avant tout. La femme enfant, la femme perverse, la femme mère. C'est tous ces trois stéréotypes qu'on va retrouver principalement dans le mouvement surréaliste. Donc, mais les femmes en chair et en os qui chamboulent ces visions simplistes sont intimidantes et dérangeantes pour l'ego. Donc, alors, lorsqu'une d'entre elles, en l'occurrence Joyce Mansour, écrit « Urine dans la soupe de ton mari, songe fauve d'une verge désossée, j'arracherai la cuvette de ta bouche menteuse » ou encore « J'aime ton corset qui soutient un corps tremblant, tes rides, tes seins ballants, ton air affamé, tout ceci me venge enfin, des hommes qui n'ont pas voulu de moi. » Il est difficile pour les hommes surréalistes de nier qu'elle surpasse les visées du mouvement par son esthétique et son contenu transgressif. Or, la mettre au premier plan serait admettre qu'ils sont encore quelques pas derrière leur dite révolution. Donc, ce qui fait en sorte que des autrices de grand talent comme Joyce Mansour sont réduites à la position de minoresse, bien qu'elles aient connu une reconnaissance symbolique au sein du mouvement. Donc, Mansour n'a pas connu la consécration et n'a pas été lue par un plus large public. Donc, elle a été écartée des études littéraires, des critiques et de lecteurs, lectrices potentiels en raison des propos libertins jugés inappropriés pour son genre. Voilà.
Merci. Ben oui, je vais prendre le relais après préfère de parler d'une autrice en particulier, donc je vais plutôt parler d'un métier en particulier, de la chaîne du livre ou de la littérature. Et pour le présenter, en fait, je vais citer le dernier ouvrage de Laurie Saint-Martin, un bien nécessaire. Donc, je cite « Nous sommes tous, face aux multiples langues du monde, des ignorants qui tiennent le livre à l'envers. Ce sont les traductrices qui, grâce à leur travail, le mettent à l'endroit. » Fin de citation. Donc, c'est moi, ce que je désire parler, et c'est un peu mon dada, on l'a entendu en présentation avec la traduction, c'est les traducteurs et traductrices, donc ces personnages un peu oubliés en marge du cercle littéraire, en marge de la production même littéraire. Ce sont des personnes qui pourtant investissent des textes à notre place et nous en offrent des interprétations qui seraient autrement impossibles, ne serait-ce parce que nous ne maîtrisons pas la langue. Une personne, donc, vient s'interposer comme une sorte d'interface entre nous et le texte d'origine, qui le rend disponible, en quelque sorte, dans ses propres mots. Je vais citer à nouveau Laurie Saint-Martin, puisqu'il y a un autre passage dans son récent bouquin que j'aimais bien et qui synthétise très bien le rapport que le traducteur littéraire a pas mal avec le milieu littéraire. Donc, je cite, « Si vous avez déjà aimé d'amour une œuvre écrite dans une langue que vous ne maîtrisez pas, vous savez l'ampleur du cadeau que nous font les traductrices. Et pourtant, l'ingratitude, la non-reconnaissance à leur égard sont presque la règle. » Fin de citation. Cette ingratitude, donc, les traducteurs et les traductrices littéraires la vivent au quotidien. C'est toutes ces fois où le nom est omis sur le livre, sur le bandeau promotionnel ou dans les fiches techniques. Sauf lorsque la traduction est effectuée par un auteur, donc quelqu'un qui a déjà écrit, et là, à ce moment-là, la renommée de l'auteur va primer sur la renommée du traducteur. Dans The Translator's Invisibility, paru en 1994 et désormais célèbre en traductologie, Lawrence Venuti décrit donc la situation du traducteur à partir du terme d'invisibilité. S'il parle certes de culture anglo-américaine dans son œuvre, on peut facilement l'adapter à des cultures nord-américaines, sinon occidentales. La situation des traducteurs et traductrices est invisible, d'une part parce que leur rôle, leur travail, disparaît derrière la manipulation de la langue cible, langue cible pour le texte qui est traduit, et d'autre part, les œuvres traduites ont tendance à se glisser au sein des œuvres écrites directement en français, notamment on ne fait pas la distinction dans les librairies, des œuvres traduites en français et des œuvres publiées en français, c'est souvent dans le même melting pot, on peut utiliser un bon anglicisme. Donc, il s'agit d'une double situation d'invisibilité qui pousse les traducteurs complètement à la marge du milieu éditorial et donc littéraire et de la pensée. J'aimerais à ce titre reprendre ce terme d'invisibilité, donc de Venuti, pour parler justement du traducteur d'aujourd'hui qui est toujours invisible malgré la trentaine d'années de travaux qui ont été menés pour essayer de redorer un peu son image. On a encore en tête l'adage italien traduttore, donc pour le traducteur se traite. Leur présence des traducteurs demeure en filigrane, mais on peut les repérer malgré tout dans les textes, comme une forme d'apparition fantomatique un peu, puisqu'on lorsqu'il va y avoir une erreur de traduction, on va la sentir dans le texte. On se dit « ceci n'est pas original, ceci n'est pas authentique ». On confirmera rapidement, on va ouvrir le livre, « ah oui, bon, c'est bon, il y a une traduction », mais on ne se souviendra pas du nom de la personne ou quoi que ce soit, on va toujours se concentrer sur le nom de l'auteur, c'est ainsi que la culture du livre contemporaine elle est faite. Comme se questionne Barbara Cassin, si les traducteurs et traductrices ne sont pas des écrivains et écrivaines, ce sont des traducteurs et traductrices, peut-on au moins les considérer comme des auteurs? Donc, ils n'ont pas comme des écrivains. La question se pose. Les traducteurs et traductrices, donc, sont invisibles, et de cette invisibilité vient justement mon lien avec l'impensé, pas de la littérature, mais de la traduction en tant que forme de littérature, ou du moins en tant que prolongation de la littérature. La traduction est une force motrice de la littérature contemporaine. La pratique, elle, est invisible, rarement pensée. Ce sont les traducteurs qui sont jetés à l'oubli bien souvent. Pourtant, Yale manie les langues de la littérature. Yale, on se fait un travail fastidieux de restituer le sens, celui de procéder à la resémiotisation d'une œuvre littéraire, donc de réseaux infiniment complexes de sens, de relations, d'intertextes. Il faut tout revoir. Traduire un texte littéraire, nous dit Antoine Berman, c'est d'accepter l'étrangeté de l'autre, mais aussi, sinon tout autant, le reconnaître en soi. La traduction, nous dit-il, révèle des versants inconnus des œuvres. Donc, une prolongation là-dedans. Ces versants inconnus sont cristallisés par la traduction et ils sont figés dans le temps. C'est tout l'avantage de la traduction de pouvoir voir comment une œuvre a été interprétée dans une culture donnée et qu'une œuvre doit nécessairement être traduite constamment pour justement avoir de nouvelles interprétations possibles, contrairement à une œuvre qui n'est pas traduite ou qu'on va juste travailler le texte directement. Reléguer les traducteurs et traductrices, en marge de la littérature a pour conséquence d'oublier qu'une traduction évolue, elle aussi, de siècle en siècle surtout. C'est un travail sur la littérature et dans la littérature. De nouvelles versions voient constamment les jours et chacune d'entre elles participe, comme l'original, à constituer l'univers des possibilités du texte. Et en ce sens, je rejoins un peu la sémioticienne Susan Petrilli dans un article qu'elle a publié il y a quelques années sur le fait que le texte traduit est un objet paradoxal. Tout autant en fait pour elle que le texte lu, puisque du moment qu'il est interprété, le texte se multiplie. Je cite « Le texte, à l'origine, est un. et ne peut être multiple en ce que si multiple serait contradictoirement similaire et différent à la fois. Par multiple, elle entend nos propres interprétations qu'on peut avoir du texte. Donc, le fait que du moment que je lis le texte n'est plus le texte, il a mon interprétation du texte et il y a le texte. Je poursuis. Mais en même temps, par sa seule existence, le texte devient double et de double à triple et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Le texte est lui-même une métempsychose infinie. Fin de citation. Par métempsychose, Petrilli entend que le texte, le livre, en fait, tout ce qui peut être littéraire, ça peut être du texte numérique, hypermédiatique, quoi que ce soit, qui a une composante littéraire, ou je dirais même un cahier d'entretien de laveuse pourrait, à la rigueur, faire le travail. La traduction, c'est oui une pratique qui est figée dans le temps, mais c'est une pratique qui évolue dans le temps. Plus encore, la traduction actualise la littérature et permet un peu de dépoussiérer celle-ci, parce que par la traduction, par justement ces traducteurs et traductrices qui vont chercher des œuvres parfois en marge, parfois inconnues, on arrive justement à raviver un peu l'intérêt de genre, et c'est quand même courant que des auteurs et autrices sont découverts par la traduction et non par le texte d'origine lui-même, parce qu'il a tout simplement passé entre les mains du filet, comme on va pouvoir en discuter d'ailleurs avec toi un peu, de livres qui passent.
Merci, Pierre-Gabriel. Donc, Johan,
parfait. Donc, c'est avec un plaisir à peine dissimulé que j'ai tiré des oubliettes le livre « Jeu », un livre dont vous êtes l'intellectuel, de Michel Biron et Pierre Popovic. Nul besoin de rappeler, je présume, que Biron et Popovic sont professeurs, titulaires, sinon émérites, l'un à l'Université McGill et l'autre à l'Université de Montréal, respectivement, et que tous deux sont spécialisés en histoire de la littérature et en sociocritique. Tel que laisse entendre aisément le titre de l'ouvrage, il s'inspire du genre populaire du livre dont vous êtes le héros. Toutefois, le but n'est pas ici de devenir un héros, mais bien de devenir un intellectuel proéminent, et plus précisément, d'obtenir l'un des 7 postes réservés à la France au Collège d'Europe. Première curiosité du texte, il ne se déroule pas en contexte québécois, mais bien à Paris, entre les années 1960 et 1998, bien sûr. Bien évidemment, le point pivot de l'aventure se situe autour du chapitre 68, en d'autres mots, des événements de mai 68. L'aspect tant humoristique savant de l'ouvrage doit déjà se profiler à l'horizon, c'est-à-dire qu'il constitue autant un important ratissage de l'histoire des idées en France que d'une fictionnalisation ludique de celle-ci. Et sur cette note, c'est sur cette note que le parcours est lancé, je cite. « Vous avez 20 ans en 1960 et vous devez choisir un directeur de conscience. Choisissez-vous Raymond Picard ou Roland Barthes. Si vous avez opté pour le premier, passez à la deuxième étape. Si vous avez choisi le second, passez à la troisième étape. Si vous êtes genre ni oui ni non et que vous êtes du style occupé par principe la position du tiers exclu, si, de surcroît, et comme il convient au héros que vous voulez être, vous êtes à l'affût d'un petit ou d'un grand saut épistémologique, un certain Bourdieu, revenu des pays dangereux, vous attend à l'étape 5. » Le jeu, que je n'ai toujours pas réussi, d'ailleurs après 5-6 essais, mène le wannabe intellectuel, enfin le joueur, au travers de périples synthétisés en 9 voix. Synthèse rangée en annexe sous l'intitulé « Suggestion de parcours, à ne lire qu'en cas de détresse profonde ». En guise d'exemple, ces profils sont nommés Lacan, le pervers, la féministe, le déconstructionniste postmoderne. Pourquoi vous parlez de cet ouvrage? La première pensée qui m'a mené à m'y intéresser concernait les principales avenues offertes aux joueurs ou à la joueuse, nommément la reconnaissance ou l'oubli dans le monde des idées. Toutefois, ce qui m'a motivé à arrêter mon choix sur cet étrange objet pour la présentation d'aujourd'hui est le silence criant englobant le dit objet. Sur la base de données Sophia, le titre de l'ouvrage génère 3 résultats, dont 2 ne concernent nullement l'œuvre. La base de données ne trouve que 7 copies, toutes éditions et formats confondus à travers le monde. Pour sa part, le moteur de recherche Google ne régurgite que 1800 liens, dont moins d'une dizaine concernent directement l'œuvre. 2 d'entre eux mènent à des articles de journaux datant de 1998 et 1999, 2 autres à des communications scientifiques ne faisant que nommer l'œuvre au détour d'une phrase. Il y a bien sûr un lien vers un solveur de livres dont vous êtes le héros, site abandonné depuis 2014. Puis, plus étrangement, s'y trouve un court article de 1999 en anglais intitulé « The Importance of Being Jacques » d'Emily Akin sur un site archive du New York Observer. Texte qui relate une potentielle traduction de l'ouvrage sous le nom de « How to become a French intellectual ». En dehors de cela, le titre est référencé, excusez-moi, sous toutes les grandes plateformes de vente de livres, Archambault, Gallimard, Amazon, etc., avec la mention « épuisé ». Devant ce silence informationnel, une envie espiègle de communiquer directement avec les auteurs m'a pris à bras le corps. Pour savoir, entre autres, quelle avait été la réception de l'œuvre au Québec et en France, combien de copies avaient été initialement imprimées, y avait-il eu réimpression, le livre avait été, est-ce qu'il avait été traduit finalement, et tant qu'à y être, y avait-il des détails croustillants partagés autour de la publication de l'œuvre? D'une certaine façon, je voulais savoir si leur propre prophétie s'était réalisée, c'est-à-dire que Marie-André Chouinard, qui couvrait le Salon du livre en 1998 pour Le Devoir, rapportait que les auteurs étaient un brin inquiets quant à la réaction que provoquera la parution du livre. Au Québec, dit Michel Biron, le pire serait le silence, alors qu'en France, nous risquons plutôt la descente aux enfers. À ma grande surprise, tous deux répondirent à mon courriel, du moins à celui de ma collègue Hélène Després, que je remercie au passage. En résumé, selon les deux auteurs, la réception au Québec a été bonne, voire très bonne. Michel Biron soulignait l'éloge de Gilles Marcotte dans l'actualité, et je cite, « Je ne saurais cacher l'admiration que m'inspire ce livre, lequel nous comparait même à Umberto Eco, maître de la satire. » Le livre a été imprimé une seule fois à 150 exemplaires, selon Popovic, sinon à 2000 exemplaires, selon Biron, qui affirme que la bonne moitié a été vendue et l'autre, peut-on imaginer, pilonnée.
Au moins 30-40%. Hein?
Le livre n'a pas été traduit ni publié en France, malgré un contact de Popovic aux éditions du Seuil, qui lui répondit « Si on publiait ce machin, Bourdieu nous tirerait la gueule pour longtemps. » En d'autres mots, la réception en France a été nulle, selon le bon mot de Popovic. Ainsi, un livre dont vous êtes l'intellectuel a eu l'effet d'un pavé dans la mare, c'est-à-dire un bel éclaboussement initial et bien peu de vagues à long terme, en dehors peut-être de la bulle d'air que constitue ma présentation d'aujourd'hui. Or, à mon sens, il est étonnant que le livre soit tombé dans l'oubli. Il s'agit tout de même d'un travail épistolaire, soit dit en passant, étalé sur 4 ans, entre 2 experts de la littérature française notamment. Le livre constitue un fin mélange générique. Il en va de même pour l'enchevêtrement du style des auteurs. L'humour n'a pas trop mal vieilli non plus. Et la critique du milieu littéraire et universitaire, surtout français, reste pertinente. Non pas tant en tant que miroir, excusez-moi, du contexte québécois, mais de cette période très bouillonnante de la théorie littéraire et de la pensée française. Bien sûr, la réponse facile serait de l'attribuer à la manière des auteurs, dans leur courriel, au public restreint que vise l'ouvrage, soit le littéraire québécois. Toutefois, il me paraissait intéressant de soulever la question auprès des collègues friands et friandes de telles interrogations, en espérant avoir donné le goût de jouer. Merci de votre écoute.
Merci, Johan. Donc, on voit l'oubli. En fait, j'ai mis quelques mots à la suite du terme de l'oubli. D'abord, l'invisibilité. L'oubli est associé à l'invisibilité, à la marginalité. On le voit avec Mansour. Aussi à la non-reconnaissance ou à l'impossibilité d'une reconnaissance de l'autre. Donc, à des formes très, très hiérarchisées et centralisantes des valeurs, mais aussi au caractère éphémère, à l'éphémérité, donc à l'absence d'impact aussi d'un livre. Donc, c'est-à-dire que pour que la littérature soit acte de mémoire et soit retenue, il faut qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait une reconnaissance, il faut qu'il y ait non pas un acte d'invisibilité, mais au contraire de visibilité, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient présents. Donc, je pense que ça, c'est une façon de résumer un peu là, les trois, vos trois interventions et d'une certaine façon aussi que la mienne.